Donc aujourd'hui, on a le plaisir et le grand honneur de recevoir Françoise Gaillard, qui est une fidèle du groupe Flaubert, et qui aujourd'hui va nous parler de l'image du moment parfait. Non pas du style parfait, mais de l'image du moment parfait.
Les moments parfaits d'Emma. D'ailleurs, justement, Jacques Neff faisait remarquer, mais je n'avais pas employé ce syntagme, que Emma Bovary, le syntagme Emma Bovary, n'apparaîtrait jamais dans le texte de Flaubert. Alors, moi, je ne l'ai pas vérifié. Il paraît que c'est un Japonais extrêmement consciencieux qui a fait remarquer que ça n'apparaissait jamais. Bon. Donc, je parlerai d'Emma. Alors, tout d'abord, je vais vous ennuyer, mais pas très longtemps, avec un petit rappel. Mais beaucoup d'entre vous connaissent cette distinction. Et c'est pour les plus jeunes que je fais ce petit point d'information. Alors, l'opposition entre narration et description, d'ailleurs accentuée par la tradition scolaire, est un des traits majeurs de notre conscience littéraire. Voilà ce que l'on pouvait lire dans un article de Gérard Genette, que les anciens connaissent bien, intitulé « Frontières du récit », paru dans Communication numéro 8, en 66, à l'époque de la théorie littéraire, et repris par la suite dans Figure 2, et on sait que cet article fit longtemps figure de référence. Alors, il est clair qu'en écrivant ces lignes, Gérard Genette s'inscrivait dans une tradition stylistique et rhétorique classique qui se réclame de la poétique d'Aristote et qui, pour aller vite, très vite, je vous dis, c'est un rappel, distingue dans tout récit deux types de représentations, je dis bien de représentations, parce qu'il faut ici préciser que le terme de représentation employé par Gérard Genette lorsqu'il dit vous allez voir dans la citation suivante que lorsqu'il parle de représentation, ce terme de représentation est celui que dans les années de recherche en narratologie on utilisait pour traduire le concept aristotélicien à trop large spectre de mimésis. De représentation plutôt que de mimésis, je vous dis à cause du trop large spectre de ce concept aristotélicien. Donc, Gérard Genette distingue donc la représentation d'action ou narration dont le régime de sens est le raconter et la représentation d'objets et de personnes ou description dont le régime de sens est le décrire. Si simple et connu. Tout récit comporte, et là j'abrège la citation de Gérard Genette, tout récit comporte, quoique intimement mêlé et en proportion très variable, Gérard Genette bien évidemment, en parlant de proportions très variables, de proportions variables, veut rappeler qu'il n'ignore pas que l'importance relative accordée à la description et la narration dans les textes littéraires est une affaire de genre et d'école, mais que ce n'est pas ce qui l'intéresse dans cet article. Donc, tout récit comporte, j'abrège, quoique intimement mêlé et en proportion très variable, d'une part des représentations, des représentations d'actions et d'événements qui constituent la narration proprement dite, et d'autre part des représentations d'objets ou de personnages qui sont le fait de ce que l'on nomme aujourd'hui la description. Fin de citation. Alors, c'est cette dichotomie qui veut que la représentation d'action relève de l'ordre du narratif et celle des objets ou des personnes du descriptif, et là je rappelle encore une fois des choses bien connues de nous, que conteste Jean-Michel Adam dans nombre de ses écrits, notamment dans un article de 1994 qui a pour titre « Décrire des actions racontées ou relatées ». Vous allez comprendre après pourquoi j'avais besoin de ce petit retour en arrière. Il n'est à l'époque ni le premier, ni le dernier, ni surtout le seul stylisticien ou théoricien de la littérature à remettre en cause le simplisme de l'opposition classique entre narration et description et étendre la catégorie de la description jusque-là réduite à la représentation d'objets ou de personnes au champ de l'action. Mais, Jean-Michel Adam, il est peut-être celui qui milite le plus en faveur d'une telle extension, c'est-à-dire l'extension de la représentation d'objets ou de personnes au champ de l'action. Au risque d'ailleurs, assumé par lui, de restreindre celui de la narration proprement dite. Et je cite Jean-Michel Adam, « Je me propose, écrit-il donc dans l'article auquel je viens de faire référence, « je me propose d'envisager deux modes de textualisation des actions, la description d'action relatée et le récit raconté. » Alors, autant me semble peu pertinente la différence que Jean-Michel Adam établit entre « relater » et « raconter », parce que pour moi, ce sont deux verbes dont le sens est dans notre langue si voisin qu'il est vraiment difficile de considérer qu'ils puissent renvoyer à deux postures, deux positions énonciatives distinctes, autant je trouve pour ma part extrêmement heuristique la distinction qu'il propose entre deux types de représentations d'action, souvent confondues en une seule, la description d'action d'une part et la narration de l'autre. Alors, rendant à Gérard Genette ce qui est à Gérard Genette, Jean-Michel Adam reconnaît aux critiques la paternité de l'élargissement de la notion de description qui constitue le premier pas dans l'avancée théorique vers le concept de, qui me servira dans ce que je vais vous dire ensuite, de description d'action. Je cite Jean-Michel Adam, en introduisant la possibilité pour la description de porter sur des procès, c'est-à-dire sur des actions, bien sûr, Gérard Genette a le mérite, on a envie de dire à Jean-Michel Adam, merci pour Gérard Genette, donc Gérard Genette a le mérite d'envisager un type de procès non plus narratif, mais descriptif, et là, c'est moi qui souligne, représentant des actions plus simultanées que chronologiques, à la manière d'un tableau ou d'une scène. Qu'est-ce qui, aux yeux de Jean-Michel Adam, fait de Gérard Genette le pionnier, encore timide, donc, de ce concept de représentation d'action? Alors, je suis allé chercher, dans l'article Frontières du récit, sans doute ce passage, donc, de Frontières du récit, où Gérard Genette, bousculant les catégories traditionnelles, narration, description, envisage la possibilité pour la description de représenter des actions. À condition toutefois que celle-ci se présente non sous la forme d'un récit, mais d'un spectacle. Je cite Gérard Genette. La narration s'attache à des actions ou des événements considérés comme de purs procès, tandis que la description, parce qu'elle s'attarde sur des objets et des êtres considérés dans leur simultanéité, et voilà le passage important pour Jean-Michel Adam, mais aussi pour moi, donc, parce qu'elle s'attarde sur des objets et des êtres considérés dans leur simultanéité, envisage les procès eux-mêmes comme des spectacles. Alors, je laisse volontairement de côté les nombreux travaux opposant la temporalité de la narration, succession des actions dans le temps, à la spatialité de la description, simultanéité des actions, description d'action, pour ne retenir dans ce qu'écrit Gérard Genette que ce qui m'intéresse pour ce qui va suivre, à savoir, et j'y insiste, la possibilité pour la description de représenter des procès, autrement dit des actions. Et vous l'avez bien entendu, à condition, et tout est là évidemment, que ces dernières, comme il le précise, ne soient représentées que sous la forme d'un spectacle, et je traduis, autrement dit, à condition qu'elles ne soient envisagées, vues, perçues, regardées, que comme faisant scène ou tableau. Fin ce petit retour en arrière dans ces années théorie. Elle avait lu Paul et Virginie, et elle avait rêvé la maisonnette de bambou, le nègre Domingo, le chien fidèle, mais surtout l'amitié douce de quelques bons petits frères qui va chercher pour vous des fruits rouges dans des grands arbres plus hauts que des clochers, ou qui court pieds nus sur le sable, vous apportant un nid d'oiseaux. Vous savez, c'est ainsi que commence le sixième chapitre de Madame Bovary. comment qualifier ce passage? Est-ce une narration, comme la présence de quelques verbes d'action, aller, courir, apporter, pourrait le laisser à penser? Bien évidemment, non. Ces quelques phrases ne relèvent pas de la catégorie du récit, ce que confirme d'ailleurs leur modalité verbale, le présent, qui renvoie les procès à une temporalité indéfinie où se mêle le temps des actions rapportées et celui du rêve de la lectrice. Vous voyez donc bien que parler de narrativisation au sujet de ce passage, comme au sujet d'autres semblables, j'ai pris celui-là, mais il y en a de très nombreux dans Madame Bovary, à cause des verbes d'action, serait méconnaître que ces derniers ne sont là que pour éviter le statisme de la description d'État. Vous savez, cette fameuse description d'État que Jean-Paul Sartre reprochait à Flaubert de substituer au récit d'action, je renvoie à ce qu'il disait, non pas dans son Flaubert, il est revenu souvent là-dessus, mais déjà dès les carnets de la drôle de guerre, lorsque explique qu'il est en train de lire l'éducation sentimentale et que justement ce qu'il reproche à Flaubert, c'est de remplacer les récits d'action justement par des descriptions d'État. Alors, je pense que ces verbes-là ne sont là que pour éviter ce statisme. Alors, serait-ce une description? Certains éléments descriptifs, comme la maisonnette de bambou, les fruits rouges, les grands arbres plus hauts que des clochers, pourraient le donner à croire. Mais que faire alors de ce petit frère qui court pieds nus sur le sable et qui apporte un nid d'oiseau? Alors, ni narration, ni description au sens classique du terme, ce passage présente toutes les caractéristiques de ce que depuis l'invention du cinéma, on appelle un arrêt sur image. Un arrêt qui, interrompant le cours du récit, fige la scène et la transforme en image. Faut-il y voir un exemple caractérisé de description d'action? Au sens, comme on sait à l'entendre Gérard Genette, et au sens que Jean-Michel Adam va donner à ce concept. Sans doute. Mais cette caractérisation ne répond pas à la question essentielle, parce qu'à la limite, je m'en fiche qu'on définisse ça comme une description d'action. Ça peut intéresser ceux qui s'occupent de ce questionnement, mais ce n'est pas mon problème. Ne répond pas pour moi à la question essentielle, pourquoi cet arrêt sur image? Pourquoi cette image en lieu et place d'un résumé de l'intrigue? Car si vous regardez, enfin si vous lisez attentivement le roman de Flaubert, vous apercevez qu'à aucun moment on ne raconte, n'est raconté ce qui se passe dans Paul et Virginie, l'histoire de Paul et Virginie, pas plus d'ailleurs que ne sont racontés les romans de Walter Scott. Et pour moi, c'est la question essentielle. Pourquoi donc cet arrêt sur image en place, encore une fois, d'un résumé de l'intrigue? Alors, le texte des brouillons est comme toujours plus long. Entre autres variantes, on peut lire sur le folio 132 que le bon petit frère, cueilleur et dénicheur de nids, je cite, revient haletant avec un vent d'été dans ses cheveux bouclés. Ce détail qui sera supprimé sur le manuscrit définitif ne se trouve pas dans le roman de Bernardin de Saint-Pierre. Aucune allusion aux boucles du petit frère. Rien. Et je suis allé voir. Pas plus d'ailleurs que cet autre détail, qui figure également sur les brouillons et auquel Flaubert a par la suite renoncé, je cite, « Elle avait rêvé donc l'amitié caressante de quelques petits frères, à cheveux noirs bouclés qui battaient sur son col nu. D'où Emma les sort-elle, ces cheveux noirs bouclés qui battaient sur le col nu du petit frère ?» Encore une fois, aucune allusion dans le récit de Bernardin de Saint-Pierre n'est faite à ses cheveux noirs, à ses boucles, pas plus qu'à ce col nu. D'où une question. Qui se laisse emporter au-delà de ce qui est écrit par son imagination? Qui transforme le récit de Bernardin de Saint-Pierre en tableau idyllique, au prix de quelque infidélité à la lettre du texte? Est-ce Emma qui, levant les yeux de la page, se met à rêver à cette scène. Hein? Voilà l'actrice, puis elle rêve. Et on prolonge l'effet de désirabilité en l'enveloppant dans un halo de sensualité discrète. D'ailleurs, je laisse pour l'instant la question subsidiaire, qui serait celle-là. L'effet de désirabilité tient-il à la nature intrinsèque de la scène ou à sa perfection, à laquelle il ne manquait dans le récit de Bernardin de Saint-Pierre que les boucles brunes et le col nu que celle-ci chatouille? Alors, à la première hypothèse, je répondrai par la négative, à propos de savoir si la désirabilité vient du contenu intrinsèque de cette scène. Car d'autres scènes, de nature différente, jouent exactement le même rôle. Celle, par exemple, où l'on voit, et là, il ne s'agit plus de Bernardin de Saint-Pierre, derrière un balcon, un jeune homme en court manteau qui serrait dans ses bras une jeune fille en robe blanche portant une aumônière à sa ceinture. D'ailleurs, on ne sait pas qui est ce jeune homme, on ne sait pas quelle est la jeune fille, on ne sait pas ce qu'ils font là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait rien, mais on pourrait dire d'ailleurs qu'il s'agit d'une certaine manière, et je vais vous le montrer, je ne dis rien pour l'instant. Pour revenir à ma question initiale, donc, est-ce Flaubert, je vais commencer par dire, est-ce que c'est Emma qui rêve, comme ça, vit, et puis elle se met à rêver, elle voit, elle imagine la scène. Est-ce Flaubert qui en rajoute, ces boucles brunes, etc., est-ce Flaubert qui en rajoute sur la mièvrerie convenue de la scène et sur son exotisme de pacotille pour forcer ironiquement la note? Eh bien, à ces deux questions, je répondrai, aucune des hypothèses n'est la bonne, ni l'une ni l'autre. L'explication de ces ajouts est beaucoup plus simple. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas Flaubert qui, à l'aide de quelques détails particulièrement couleur locale, prélevés dans le texte, transforme en tableau. D'ailleurs, ce serait d'ailleurs beaucoup plus juste de parler de scène type, hein, d'où l'effet pastiche, évidemment, du passage. Donc, en scène type, un épisode du roman de Bernardin de Saint-Pierre. Certes, Flaubert décrit, mais il ne décrit pas. Enfin, plutôt, il ne décrit ni une image mentale forgée par les rêveries d'Emma, ni une image obtenue par la transformation scripturale du récit de Bernardin de Saint-Pierre en tableau. Il décrit. Mais il décrit quoi? Eh bien, il décrit une gravure. Il décrit une gravure, celle qui figure dans l'édition illustrée de Paul et Virginie, inscrite à l'inventaire de sa bibliothèque, Paul et Virginie, Collignon, Lacoste et fils aîné, édition Plasson-Fils, 1839. Alors, c'est là où, si ça marche, je pourrais vous montrer l'image. Alors, attends, on a dit que... voilà, pas d'objet. Ah oui, il fallait que j'éteigne. Non, c'est bon, c'est bon. Alors, bon. Là, c'est pas, ça, c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Celle-là, on voit la maisonnette, etc. Mais ça, c'est une des gravures. C'est pas très bon à la définition, mais il faut dire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là?
Non, ça va.
Annulé. C'est pas très très bon, mais il faut dire que les images n'étaient pas. Bon, ça rend moyennement. Mais je voudrais vous montrer. Voilà, le petit frère dénicheur. Le petit frère dénicheur de nid, etc., dans les grands arbres, etc. Voilà les images, les figures qu'elle voit. Voilà ce qu'elle voit. Et puis, on va voir le petit frère avec ses boucles brunes. Voilà, le petit frère. Alors, un gros plan est plus intéressant. J'avais fait un gros plan, mais vous voyez bien, avec ses cheveux noirs, bouclés, etc. Bon, très bien. Alors, j'arrête en faisant quoi? Comme ça. Non, je vais l'enlever. Bon, vous voyez donc, j'aurais pu les multiplier, hein, les gravures qui se trouvent dans l'édition, n'est-ce pas, de Flaubert, de Paul et Virginie. Donc, pas besoin d'avoir recours de manière savante à la catégorie subtile de description d'action. Je crois que, en l'occurrence, la bonne vieille rhétorique possède un terme pour définir des passages de ce type, ça s'appelle l'ekphrasis. Ekphrasis, en l'occurrence, dissimulé. En fait, vous voyez bien que dans ce que j'ai montré, il s'agit de deux vignettes distinctes qui ont été condensées. Il y a un effet de condensation de ces deux vignettes en une seule description. Et alors, vous allez me dire, je me pose cette question, pourquoi est-ce que je m'en étonne? Et alors, pourrait-on me dire, Flaubert ne pratique-t-il pas ouvertement le genre quand il évoque les images pieuses, n'est-ce pas, dans la contemplation desquelles Emma s'absorbe durant les offices? Bien sûr. À la différence près que les scènes de Paul et Virginie qui font rêver Emma, comme le feront plus tard celles des romans de Walter Scott, et déjà, mon hypothèse apparaît, et qui peut-être sont ce qui seul lui reste de ses lectures, ne proviennent pas d'images populaires, dont les progrès de l'imprimerie ont développé la diffusion, mais que ce sont des illustrations qui figurent dans les livres. Ce n'est pas la même chose que d'avoir des images pieuses dans son missel. Bon, alors là, très vite, je développerai pour la publication. De si nombreux travaux ont été récemment consacrés à l'histoire et à l'essor du livre illustré au début du XIXe siècle, donc il me suffit de mentionner cette nouvelle réalité éditoriale qui bouscule les frontières entre le décrire et le raconter, entre le voir et le lire, et qui influe sur les habitudes de lecture et agit en profondeur sur la constitution d'un imaginaire collectif dont celui d'Emma Bovary, enfin non, d'Emma, pardon, depuis que Neff m'a fait... dont celui d'Emma et avant elle sur celui de Flaubert, quelques distances ironiques qu'ils prennent avec le phénomène. Vous connaissez la version de Flaubert, et d'ailleurs tout ce que je vais vous dire ensuite vient justifier cette aversion. La version de Flaubert pour les illustrations, je rappelle, enfin les Flaubertiens connaissent mieux que moi, jamais moi vivant ne m'illustrera, parce que la plus belle description littéraire est dévorée par le plus piètre dessin, etc. Du moment qu'un type est fixé par le crayon, il perd, etc., etc. Ou autre passage, quant aux illustrations, m'offrirait-on 100 000 francs, je te jure qu'il n'en perdra pas une, ainsi inutile de revenir là-dessus. Et quand la Bovary est illustrée, depuis longtemps, les dessins concernant le livre à peu près comme la lune, concernent le livre à peu près comme la lune, etc., etc. Bref. Donc cette aversion est bien connue. Et peut-être que je la comprends mieux à partir de l'hypothèse qui m'est venue à l'esprit et dont je vais vous faire part. Voilà l'hypothèse. Elle est très simple en fait. Et si dans Madame Bovary, Flaubert dénonçait moins le danger des mauvais livres, des mauvaises lectures, ce sont plutôt des mauvais livres que des mauvaises lectures, le danger des mauvais livres, les romances, etc., que la puissance maléfique des images, ou plutôt des illustrations. Ce que je peux formuler, cette hypothèse, de la manière suivante. Et si Emma avait plus vu que lu. Loin de moi de mettre en doute le fait qu'Emma ait été dans sa jeunesse une dévoreuse de livres. Je veux simplement émettre l'hypothèse qu'au cours de ses lectures, ce qui a nourri les rêves, ce ne sont pas tant les récits, les intrigues proprement dites, dont justement Flaubert ne dit rien, que les illustrations. Les gravures, les chromos, les vignettes, tous ces arrêts sur et en images qui transforment ce qui est raconté en scène, comme si l'histoire fictionnelle, dans le cas de Paul et Virginie, ou collective, dans celui de certains romans de Walter Scott, se réduisait à une succession de tableaux dont l'enchaînement est, de ce fait, inintelligible. Et si vous regardez ce qui est dit du roman de Bernardin de Saint-Pierre, ce qui est dit plus tard des romans de Walter Scott, une totale perte de sens de l'action, comme ce qui sera dit d'ailleurs à propos de la représentation de l'opéra de Donizetti de Lucie d'Amermoor qu'elle va voir à l'opéra de Rouen. Donc il y a une totale perte du sens de l'action, comme d'ailleurs dans les passages de la narration à la description d'action. Alors, j'en viens à l'opéra. Un beau jour, Charles décida de conduire sa femme à l'opéra de Rouen, donc pour assister à cette fameuse représentation du Lucie de la mère mort. Alors, on se souvient de ce texte fameux. Alors, vous vous souvenez que Emma, au début, elle est ravie, elle se laisse éblouir par tout ce qui l'entoure, les gens, le lieu, etc. Puis, et je cite Flaubert, « Le rideau se levant découvrit un paysage. C'était le carrefour d'un bois, avec une fontaine à gauche, ombragée par un chêne. Des paysans et des seigneurs, le plaid sur l'épaule, chantaient tous ensemble une chanson de chasse. Puis il survint un capitaine qui invoquait l'ange du mal, en levant au ciel ses deux bras, un autre parut, ils s'en allèrent et les chansons reprirent. Alors, pourquoi sont-ils là? Que font-ils? Qu'attendent-ils? Que préparent-ils? Autant de questions, évidemment, auxquelles l'image seule ne peut répondre. Et, c'est la phrase qui suit, qui termine, si vous voulez, ce passage sur la représentation de l'opéra de Donizetti qui m'intéresse, elle se retrouvait dans les lectures de sa jeunesse en plein Walter Scott. Hein? Dans les lectures ou dans les gravures? D'ailleurs, j'ai trouvé, mais là ça ne correspond pas tout à fait à ça, j'ai trouvé un décor contemporain, voilà, décor contemporain de l'écriture de Madame Bovary, d'une des représentations de Lucie de la mère mort. Et vous voyez bien jusqu'au côté, le côté gothique, etc., dont je parlerai tout à l'heure. Voilà à quoi ça ressemblait. D'ailleurs, il serait, en note, je pourrais développer sur le fait que bon, cet opéra a été représenté, comme on sait, en 1839 à Rouen. On sait aussi que Flaubert l'a vu à Constantinople en 1850, etc. Bon, il y a toutes sortes de références à cet opéra. On sait qu'au couvent, Emma, après, comme dit Flaubert, s'être graissé les mains à la poussière, une citation des romances prêtées par une vieille lingère, avait abandonné cette littérature niaise pour lire Walter Scott. Et Flaubert nous dit alors qu'elle se mit à rêver, je cite, « bahut, salle de garde et ménestrels, elle aurait voulu vivre dans quelque vieux manoir, comme ces châtelaines au long corsage qui, sous le trèfle des ogives, c'est pour ça que je vous ai montré un décor comme ça, un peu gothique. Sous le trèfle des ogives, passaient leur jour le coude sur la pierre et le menton dans la main à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir. Oui, bien que là aussi, nous sommes dans une image et non pas dans une intrigue. Hein? Et donc la question se pose, à l'opéra, dans quoi se retrouve-t-elle au juste ? Dans ses lectures de jeunesse, ou dans les images qui la faisaient rêver, et dont Flaubert, lorsqu'il évoque la châtelaine au long corsage, se contente de décrire l'une d'entre elles. D'ailleurs, vous remarquerez que la scène est en noir et blanc, comme les gravures. On a un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir. Alors, à l'opéra, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle voit à l'opéra ? Ben, des scènes types, c'est-à-dire des scènes où chaque chose est non seulement comme elle doit être, mais aussi à sa place, et exactement comme dans une composition parfaite hein, qui rassemble tous les éléments. Bouvard et Pécuchet, mais pour des raisons différentes de celles d'Emma, eux aussi en viennent, après la déception qui a été provoquée par leur lecture des historiens et ceux aussi qui essaient de faire de la philosophie de l'histoire, ils en viennent aussi, vous vous en souvenez, à lire Walter Scott. Et vous vous souvenez aussi du texte, ce fut pour eux, je cite Flaubert, comme la surprise d'un monde nouveau. Et qu'est-ce qu'on voit ? Des paysages artistement composés entourent les scènes comme un décor de théâtre. C'est pour ça que je vous ai montré le décor de Lucie de la mère mort. On suit des yeux un cavalier, tiens, il y en a encore un qui passe là. On suit des yeux un cavalier qui galope le long des grèves. On aspire au milieu des genêts la fraîcheur du vent. La lune éclaire des lacs où glisse un bateau. Le soleil fait reluire les cuirasses. La pluie tombe sur les huttes de feuillage. Bon, besoin de développer, je crois que vous avez compris. Et là, sans là non plus mettre en doute le fait qu'ils ont lu les romans de l'écrivain écossais, dont d'ailleurs, à la différence d'Emma, ils attendent qu'il leur donne accès à l'intelligibilité de l'histoire. Ben, on ne peut s'empêcher de penser que, tout comme Emma, ils ont passé beaucoup de temps, peut-être au coin du feu, j'en sais rien, à regarder les gravures, au point même d'en être comme hypnotisés. Et d'ailleurs, ne sont-ce pas ces images qui sont ici sommairement décrites dans ce style indirect, libre, propre à Flaubert. Alors, description d'action ou ekphrasis ? C'est la seconde hypothèse qui est la plus juste. Flaubert, pour produire un effet Walter Scott, comme il l'avait fait pour produire un effet Bernardin de Saint-Pierre, décrit des gravures. Des gravures types, des gravures clichés, dans tous les sens du terme. D'ailleurs, on verra qu'il y a un effet, ce qui d'ailleurs accentue l'effet de cliché, c'est qu'il y a un phénomène de typification produit par l'image, hein, d'où ce qui explique une partie de la puissance qu'elle exerce sur les esprits. Et qui d'ailleurs vient de la conformité de l'image aux idées reçues. L'image, c'est comme ça doit être, comme on imagine que ça devrait être. Hein. Au fond, l'image est une idée reçue figurale. Tous les sens du terme, c'est un cliché. Et je vous disais, si vous regardez, ce qui est dit de Walter Scott dans Bovary Pécuchet, ou ce qui en est dit dans Emma Bovary, ben, il n'y a pas d'intrigue, où Val Cavalier, on ne sait rien, il y a un jeu de lumière, c'est en noir et blanc. Bon. Alors, petite précision, et elle a son importance. Les ouvrages de Walter Scott commencèrent à être illustrés à partir de 1827. Depuis 1827, les éditions enrichies d'images se multiplièrent. Là, vous trouverez tous les renseignements, on a dans les articles savants, on vous donne les différentes dates d'édition illustrées de Walter Scott. Mais ce qui m'intéresse, ma curiosité n'est pas allée jusqu'à ouvrir suffisamment largement les cordons de ma bourse, c'est que en 1840-41, parut à Londres et à Paris un recueil de 109 gravures illustrant dans le goût romantique diverses scènes ou paysages décrits par Walter Scott ou caractéristiques de l'atmosphère de ses romans. Vous voyez bien, ce ne sont pas les romans illustrés. Il y a les éditions illustrées de Walter Scott. Et puis, il y a ces deux volumes de recueils d'illustrations tirés d'ailleurs des différentes éditions illustrées de Walter Scott. Et figurez-vous que j'ai cherché, Gallica, etc. Et puis tout d'un coup de chance, j'ai trouvé le recueil sur eBay. Mais malheureusement, je vous dis, je ne suis pas allé jusqu'à y mettre le prix. Mais le vendeur, pour appâter le chaland, avait montré quelques images, n'est-ce pas, de ce recueil. Donc je vais vous en montrer quelques-unes, de ces images types. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui suit. Donc vous voyez, des recueils uniquement d'images, un album d'images, sans histoire, sans intrigue, sans rien, hein, des images. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait la préface sur eBay du responsable de cette édition, je vous dis, ça a paru à Londres et à Paris au même moment. Dans une préface succincte, l'éditeur de cet album précise ses intentions. À quoi ça sert ? Parce que ce n'est pas une bande dessinée. Hein, ce film. Son but est, dit-il, de mettre à la disposition des différents éditeurs à venir des illustrations en quelque sorte passe-partout, dont le facsimilé puisse s'intercaler dans les rééditions du livre du célèbre auteur. C'est-à-dire que si vous éditez Walter Scott, ben voilà, vous allez trouver. Et puis ça n'a pas d'importance si ça ne correspond pas vraiment à ce qui est raconté dans le roman, puisque de toute façon, un lac avec la lune ou un cavalier qui galope sur la lande avec des genêts, ça passe dans un roman ou dans un autre. Alors il le précise, hein, là j'ai. Il explique que ça. Les avantages des illustrations, c'est évidemment que ça va pouvoir s'appliquer indistinctement à toutes les éditions, partout. D'ailleurs que c'est d'un format commode, hein, permettant leur intercalation dans le plus modeste in 12 comme dans le plus brillant in 8, etc. Vous pouvez feuilleter ça et puis ça ira partout. Vous voyez, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'au fond, Walter Scott, qu'est-ce que c'est? C'est des images. Un album d'images. Et d'ailleurs, il dit que, donc c'est très utile pour ceux qui voudront ensuite publier des Walter Scott illustrés, mais que ça permet aussi, je résume sa préface, aux amateurs, grâce aux fascicules séparés, de leur offrir les scènes particulières susceptibles de les intéresser. Voilà. Alors, vous voyez bien que ce qui est intéressant là-dedans, c'est la notion d'image passe-partout, l'image type convenant à diverses situations, épisodes narratifs. Plus, la liberté dans le choix de l'emplacement de l'image dans le livre. Celle-ci n'est plus nécessairement au regard du texte qu'elle illustre. Ce qui accentue quoi? Et c'est ça qui m'a intéressé dans l'argument développé par l'auteur de cette préface. Ça accentue quoi? Bien évidemment, l'autonomisation de l'image, qui du coup peut être regardée pour elle-même. Ce dont je soupçonne d'avoir été fait par Emma et par Bouvard et Pécuchet. Non pas d'avoir eu entre les mains ce type de, ce type de recueil, mais d'avoir aussi rêvé, d'avoir autonomisé les images et de les avoir regardées. La remarque sur laquelle se termine ce défilé tableau. Oui, il faudrait peut-être que je vous montre ce qu'il y avait. Alors évidemment, ça ne correspond pas tout à fait à ce qui est dit par Flaubert, mais comme il y en avait, je vous ai dit 119, il y a toutes sortes de scènes possibles. Alors voilà par exemple ce qu'on pouvait voir. Moi j'ai pris ça, hein, je vous ai dit, remarque, j'aurais dû investir. Ah, c'est pas très bien. Enfin, il y a le cavalier, il y a ce que vous voulez. Bon. Non, c'était cher et pas cher. Enfin, il en voulait quand même 160 euros, puis que je vais en foutre. Bon, alors là, on a la barque sur le lac. Là, on a encore autre chose. Non, j'aurais peut-être dû l'acheter, mais enfin, bon. Je me suis dit que... Même pour vous. J'ai... Alors là, on a une espèce de châtelaine de donjon. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle soupire, elle a jeté, pas jeté. Enfin, bon, bref. Mais il y en a... imaginez qu'il y en a 119 de ce type. Alors... La remarque sur laquelle se termine ce défilé de tableaux Walter Scottien dans Bouvard et Pécuchet se termine sur cette phrase abondamment commentée. Sans connaître les modèles, il les trouvait ressemblants. Alors je vous dis, ça a été tellement commenté que je ne soulignerai que cette illusion. Sans connaître les modèles, il les trouvait ressemblants. Je vous dis, l'image est cliché, l'image est stéréotypée, l'image est conforme à l'idée que l'on se fait, beaucoup plus que le texte et la narration qui vient troubler les choses. C'est là-dessus que je terminerai, d'où les moments parfaits. Mais cette illusion, on aurait tort de l'attribuer à leur bêtise. Elle est beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit, car elle est induite par la nature même de l'image. Paul Valéry, qui s'en moque, dans un fragment de Tel quel, intitulé « Vraisemblance et ressemblance », n'en est pas exempt. Je cite Paul Valéry. « Quelque chose me dit que ce buste de Titus est d'une exacte ressemblance. J'appellerai sans doute vérité cette coïncidence entre mon idée de Titus et ce marbre. Moi qui n'ai jamais vu Titus et ce marbre qui a été sculpté au XVIe siècle. » Mais c'est la même chose. Ah, vous voyez un marbre de Titus, ah, ça ressemble, ah oui, à quoi j'ai pas, moi, j'ai pas vu Titus, et en plus, c'est pas un marbre romain. Grand, et le texte continue de Paul Valéry, grand débat jadis avec Marcel Schwab, devant le Descartes de Hals, le fameux tableau de Hals représentant Descartes, il le trouvait ressemblant. Oui, Marcel Schwab, c'est pas Bouvard et Pécuchet. Bah, même chose, il le trouvait ressemblant. « À qui ?» lui disais-je. Fin de citation. Mais donc que la puissance de l'image tient au fait qu'elle confirme par sa seule évidence visuelle la conformité de ce qu'elle montre à une supposée réalité référentielle, quelque fictive que cette dernière puisse être, comblant ainsi illusoirement la demande folle du lecteur d'une coïncidence entre la fiction et la réalité, ça c'est banal, mais ce qui est le moins, entre l'image et le réel, parce qu'elle l'assure, et voilà ce qui l'est moins, et on va vers les moments parfaits, parce qu'elle l'assure de l'existence d'un monde possible où ce dont l'image lui montre l'image se trouve réalisé. Et d'ailleurs, par cette illusion de conformité, elle invite bien sûr au donquichottisme. Alors, il doit y avoir une autre image, une gravure, alors ça c'est dans l'édition de Paul et Virginie, qui se trouvait dans la bibliothèque de Flaubert. Une gravure sur laquelle on voit, au milieu d'une végétation luxuriante, une Virginie, belle comme une demoiselle, se baigner en jupon dans un trou d'eau claire, suggère à Flaubert de donner à Emma l'idée d'une trempette, évidemment, dont la poésie échappe à sa mère. Je vous cite. Une fois elle alla dans l'abreuvoir aux vaches, sous la pompe, et comme la pierre était verte, avec de la mousse au fond, elle eut envie de s'y baigner. Alors vous remarquerez que c'est l'aspect évidemment moussu de ce trou d'eau qui évoque la luxuriance tropicale, une sorte de métonymie, hein, qui fait naître en elle le désir de baignade. Elle avait déjà défait ses bas et commençait à y entrer les pieds quand sa mère arriva et la fit rentrer avec deux calottes. Fin du bain de Virginie. Cette mésaventure, alors je vais vous montrer l'image. Voyons le bain de Virginie. Voilà l'image que l'on trouve dans le volume illustré de Bernardin de Saint-Pierre. Alors, cette mésaventure, dont Flaubert a dû juger qu'elle n'apportait rien de plus à la connaissance de la nature rêveuse d'Emma, ni à celle du rôle joué par ses lectures dans la déformation de son caractère, a été supprimée dans la version définitive. Eh bien, on peut le regretter. Non pas parce que le fait de prendre un abreuvoir à vaches, tapissé d'une mousse visqueuse, pour quelques piscines naturelles creusées au milieu d'une luxuriance exotique, serait une preuve du donquichottisme d'Emma, ce que cela est évidemment de manière trop évidente, d'où sans doute la suppression du passage, pour rien de plus, de ce point de vue-là. Je dis bien de ce point de vue-là. Mais c'est pour ça que je dis qu'on peut le regretter, parce que cette anecdote montre l'emprise de l'image sur Emma, beaucoup plus que le récit. Ce qui provoque son désir de baignade et exalte son imagination jusqu'à lui faire oublier le prosaïsme de la situation, ce n'est pas la scène décrite par Bernardin de Saint-Pierre, celle qu'elle a pu lire dans le roman. L'image littéraire, c'est la scène illustrée qu'elle a vue. Bon, évidemment, vous comprenez bien que tout ceci, il faudrait bien dire, comment a-t-elle le livre de Flaubert. Bon, mais ça, c'est un autre problème. C'est dans le raisonnement, dans l'hypothèse. C'est la scène illustrée qu'elle a vue, en fait, que Flaubert a vue, dans l'édition rehaussée des gravures de son Paul et Virginie. L'image figurative. Alors, évidemment, sinon, vous voudriez imaginer que Flaubert lui a prêté son édition, etc. Ah, mais au fond, Madame Bovary, n'est-ce pas lui, hein, bon. Mais trêve de plaisanterie. Alors, j'en arrive... Tu me laisses encore un quart d'heure? J'en arrive au point qui explique mon titre. Alors, il y a un autre. Ah oui, il y en a une autre. Alors, évidemment, celle-là, elle est moins chaste, mais ce n'est pas celle que Flaubert avait. Hein. On lui avait sans doute donné une édition plus... Pourquoi ça ne marche pas, ça? Il y en a une moins chaste. Mais c'est dans une autre édition illustrée de Paul et Virginie. Mais ce n'est pas celle qui figure dans... Vous voyez, là, c'est moins... C'est pas celle qui figure dans l'édition de Flaubert, qu'avait Flaubert en main. Alors, la question maintenant est la suivante. Pourquoi l'imaginaire est-il plus stimulé, ou plutôt plus comblé dans ses diverses attentes par l'image illustrative que par l'image écrite? Attente dont il faut préciser qu'il s'agit d'une attente ou d'un désir d'ordre et de conformité des choses à elles-mêmes. Sans connaître les modèles, il trouvait hein, les personnages ressemblants. C'est-à-dire une attente de conformité des choses à elles-mêmes. Plus comblée par l'image que par le récit. Alors, une première réponse rapide, mais au fond pas très intéressante, c'est parce que l'illustration offre l'avantage de présenter aux yeux du lecteur la scène dans sa totalité, lui conférant ainsi une forme de cohérence et de nécessité qui manque à la scène lue en raison du fait que les éléments qui la composent ne se dévoilent que successivement, au fil de la lecture. C'est analytique, si vous voulez. Ce qui oblige le lecteur à tout un travail mental de reconstruction du tout. Et l'on sait qu'Emma Bovary n'est pas une cérébrale. L'image, elle, elle est synthétique. Au couvent, d'ailleurs, vous savez, ce ne sont ni les leçons de catéchisme, ni les textes de son paroissien, ni la poésie des prières qui font naître en elle quelque élan mystique vite abandonné, mais des images religieuses populaires. On sait, au lieu de suivre la messe, elle regardait dans son livre les vignettes pieuses brodées d'azur, et elle aimait la brebis malade, le Sacré-Cœur percé de flèches aiguës, ou le pauvre Jésus qui tombe en marchant sous la croix. Pour qui regarde un tableau ou un spectacle, la scène représentée est toujours cohérente, même si cette scène prétend reproduire l'incohérence du monde, car tous les éléments qui la composent contribuent à l'unité de l'ensemble. Et c'est cette cohérence qui, en comblant l'attente imaginaire du spectateur, confère à l'image son pouvoir. Sur une image, tous les éléments iconiques concourent à donner du sens à la scène. D'ailleurs, il faudrait ici, mais je n'ai pas le temps, ça serait trop long, ça figurera en note, reprendre les différents passages où Flaubert, à propos de certaines scènes, certaines images, dit « c'est complet », une sorte de complétude. Même quand même s'il s'agit de représenter le désordre. Le désordre y est dans sa cohérence, dans un ordre, qui est le signe même de sa complétude. Au fond, sur une image, il n'y a pas de superfétatoire. Et là, j'emploie un vocabulaire sartrien qui est celui de la nausée. Vous allez voir pourquoi, parce que le titre même, le moment parfait, renvoie à la nausée. Sur une image, il n'y a pas de en trop. Il n'y a pas de pour rien. Il n'y a pas de sans pourquoi. Comme dans la vraie vie, dans la vie ordinaire, où de multiples accidents viennent parasiter le sens ou la perfection de l'instant. Sur une image, les grands arbres plus hauts que des clochers ne sont pas sans pourquoi, comme la racine de marronnier dans le square de Bouville. Le choix des circonstants et la composition savamment concertée contribuent à cette donation de sens et confèrent à la scène représentée ce caractère de nécessité, je dis bien de nécessité au sens philosophique du terme, vous allez voir, qui fait défaut à la vie réelle, la vie vécue, la vie de ces existants que nous sommes tous, et qui, comme Emma, sont pris dans l'aléa des choses et le désordre des événements qui leur arrivent. Sur une image, tout est comme il doit être. Et si l'image nous emplit d'un certain contentement, c'est que, quelle que soit la scène représentée, dans le cas de celle dont s'enivre Emma, il s'agit de surcroît de scènes euphorisantes, hein, ce qui ajoute au sentiment de plénitude, elle nous conforte dans l'idée, ou plutôt dans le sentiment confus, qu'il y a un devoir-être des choses, un ordre dans un monde dont le pire défaut serait de ne pas en avoir. On comprend l'attrait des images sur Emma, au lieu de suivre la messe, etc. Elle regardait, etc. Ben oui, à la messe, bien que tous les gestes des officiants soient ritualisés, c'est-à-dire que c'est un spectacle, ben il peut se produire quelques fausses notes. Un enfant de cœur qui trébuche, un prêtre qui éternue, etc. Sur l'image, rien ne dénote. La marche de Jésus pliant sous le poids de la croix est conforme. Conforme à quoi ? Conforme à ce qu'elle doit être, bien sûr, dans l'idée que l'on s'en fait, qui peut changer avec les époques, les gens. Bon. Conforme. Conforme à ce qu'elle se doit d'être, et non à ce qu'elle a été, dont nous ne savons rien, mais dont nous pouvons supposer qu'elle a été accompagnée de circonstances parasitaires. Une image, c'est comme un moment de suspens de la radicale contingence de l'existence. Et c'est à ce suspens qu'Emma arrime ses rêves. En commençant à enfoncer ses pieds dans cette auge grossière, dont sous l'emprise de la gravure, elle nimbe d'une aura sous l'emprise de la gravure, elle nimbe d'une aura et dont elle oublie la grossièreté, Ce n'est pas dans la réalité triviale d'une baignade rustique qu'Emma se prépare à entrer. Quand bien même, il s'agirait d'un paysage exotique. Non ! Mais dans une image. Elle entre dans une image. C'est-à-dire dans un monde où tous les détails et tous les circonstances contribuent à l'harmonie de l'ensemble. Et donc cette dérisoire aventure, qui terminera par une paire de calottes, cette dérisoire aventure, comme bien d'autres, plus dramatiques, qui jalonnent sa vie de femme, montre que ce qu'Emma cherche, c'est moins à devenir une héroïne dans une histoire. La preuve, les romans ne sont jamais racontés. On ne connaît pas leur intrigue, comme je vous l'avais dit. Ce n'est pas dans l'histoire de Paul et Virginie qu'elle va entrer. Elle ne se prend pas pour Virginie. Non, c'est moins devenir une héroïne dans une histoire qu'un personnage dans un tableau. Parce que le tableau transforme la prose du monde et le chaos de la vie en une réalité d'une qualité supérieure. J'ai bientôt fini. Et c'est précisément ce qui lui arrive. Quand après une faible résistance, elle s'abandonne entre les bras de Rodolphe. Ce dans quoi elle entre alors, c'est moins dans une histoire d'amour, comme le confirmera la suite du roman, que dans un tableau. Le drap de sa robe s'accrochait au velours de l'habit. Elle renversa son cou blanc qui se gonflait d'un soupir et défaillante tout en pleurs, avec un long frémissement et se cachant la figure, elle s'abandonna. Tout contribue à faire de cette scène un tableau de genre. La composition savamment étudiée, le caractère éminemment plastique des mouvements, les détails réalistes, le pathos de situation convenu. Comment pourrait-on intituler ce tableau ? La faute de la femme adultère, où Emma tombe pour la première fois, en écho à l'une de ces vignettes religieuses qu'elle regardait avec émotion pendant la messe, et qui représentait Jésus tombant sous le poids de la croix. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme dans ces fictions où le héros passe dans l'image, de l'autre côté, ou sur l'écran. Alors, élucidation de mon titre. Il y a dans la nausée une femme qui ressemble à Emma, au moins par un aspect de sa personnalité. C'est Annie. Annie qui est passée à côté de l'amour de Roquentin à cause de sa quête toujours inassouvie des moments parfaits. Et devenue une femme mûre et grasse, revenue désormais des moments parfaits, elle consent à expliquer à Roquentin qu'il faut d'avoir compris ce dont il retournait toujours gâcher les scénarios parfaits qu'elle inventait, ce qu'il en était. Alors, je retrouve où ai-je mis ça ? Voilà. Oui, tant pis, ça fonctionne. Eh bien, dit-elle, après je reviendrai à une chose plus importante, ce sera un petit peu en désordre. Eh bien, dit-elle avec conviction, si tu ne me comprends pas, c'est que tu as oublié bien des choses. Voyons, tu ne te rappelles plus tes méfaits d'autrefois, tu venais, tu parlais, tu repartais tout à contre-temps. Imagine que rien n'ait changé. Parce que Roquentin, bien des années après, est venu la voir dans un hôtel. Imagine que rien n'ait changé. Tu serais entré, il y aurait eu des masques et des châles au mur, j'aurais été assise sur le lit et je t'aurais dit. Elle rejette la tête en arrière, dilate les narines et parle d'une voix de théâtre, comme pour se moquer d'elle-même. Eh bien, qu'attends-tu ? Assieds-toi. Et naturellement, j'aurais soigneusement évité de te dire, sauf sur le fauteuil près de la fenêtre. Parce qu'elle s'est fait évidemment un scénario parfait de la rencontre. Tu me tendais des pièges, dit Roquentin. Ce n'était pas des pièges. Alors, naturellement, toi, tu serais tout droit allé t'y asseoir. Ce fauteuil-là, ce fauteuil sur lequel inévitablement Roquentin s'asseyait, ce fauteuil près de la fenêtre, interdit par un décret non dit, c'est, allégoriquement parlant, celui sur lequel Charles a toujours, spontanément, choisi de s'asseoir. Mais d'où la destruction de tous ces scénarios. Dans l'image, le petit frère, il est dans l'arbre dans lequel il doit être. Il ne grimpe pas ou il ne se cache pas derrière un... Donc vous voyez, Roquentin commettait toujours un impair. Imaginez, d'ailleurs ça, C'est quelque chose que l'on connaît, parce que ça vous arrive, ça nous arrive à tous, de se faire un scénario, n'est-ce pas ? On a dans sa tête un scénario, qui est en fait un arrêt sur image, et puis l'autre arrive, et évidemment, fout en l'air votre scénario, Laurent Quentin s'asseyait sur le mauvais fauteuil. Et le passage est plus long, parce qu'il dit, mais pourquoi ce fauteuil-là ? Eh bien, non, c'était ce fauteuil-là, il ne fallait pas s'y asseoir. Voilà, parce que dans l'image mentale, ce n'était pas le bon. Après, c'est foutu. Le tableau est foutu. On est de mauvaise humeur. Bon. Et je vous dis, allégoriquement, on pourrait imaginer que Charles ne cesse de s'asseoir sur le mauvais fauteuil. Alors, je vous dis, combien... c'est pour ça que je vous dis, il a toujours choisi... Mais au fond, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a, ce fauteuil, pour faire l'objet d'une telle condamnation ? Rien, justement rien. Et comme dit Roquentin, il est d'apparence ordinaire, il a l'air paterne et confortable. Rien, pas tout à fait. Il a un rôle réservé dans la scène parfaite, c'est-à-dire dans l'image, organisée par Annie. Je dirais presque un devoir, celui précisément de ne pas servir de siège à Roquentin. Et en ignorant l'interdit, Roquentin a détruit irrémédiablement la perfection du moment parfait en détruisant la perfection de l'image. Je pense à Charles. Dès le début, je vous dis, combien d'appaires a-t-il de ce genre a-t-il commis en toute innocence, hein, dès le début du mariage d'ailleurs. Je cite, « Il avait envie de la revoir, il s'en revenait vite, montait l'escalier le cœur battant, Emma dans sa chambre était à sa toilette, il arriva pas muet, il la baisait dans le dos, elle poussait un cri. » Ben oui, c'était pas le moment où, voilà, non, sur cette image-là, c'était pas ça. Alors, j'avais envisagé quelque chose, oui, sur le récit, mais je le laisserai tomber. Je termine. L'idée des moments parfaits, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une correspondance assez intéressante entre Annie et Emma. L'idée des moments parfaits, ces moments où toutes les circonstances sont en accord avec l'événement, et qui du coup revêt un caractère de nécessité, est venue à Annie lorsqu'enfant, elle explique, lorsqu'enfant, elle feuilletait, non pas Walter Scott, les romans illustrés de Walter Scott, ni le roman de Bernardin de Saint-Pierre illustré, non, elle feuilletait une histoire de France illustrée. C'était en fait l'histoire de France de Michelet, version illustrée. Et ce qui lui plaisait dans les gravures illustrant tel ou tel fait historique, c'est justement que tout y était comme il doit être. Pas de détails dissonants, simplement déplacés, pas de mélange des registres, sauf pour produire une harmonie supérieure. Ces images constituaient une sorte de contrepoint au désordre de l'existence. On pourrait même parler de revanche sur ce désordre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle note à un moment donné que ce qui était aussi fascinant, c'est que ces images n'étaient pas en regard de ce que, disait le texte. Par exemple, j'en sais rien, moi, Jeanne d'Arc au bûcher se trouvait 15 pages avant le récit proprement dit, ou 15 pages plus tard. Vous voyez, il y avait, comme dans le recueil dont je mentionnais. Donc vous avez une autonomisation de l'image, d'où aussi le rôle qu'elle va jouer. Donc, alors, une scène, dit-elle, l'avait tout particulièrement marquée. Celle représentant l'assassinat du duc de Guise. Alors j'ai retenu cela, celle-là, parce que il y a un texte de Flaubert, un texte de, je dirais presque de prime jeunesse de Flaubert, c'est une petite pièce de théâtre qui s'appelle La mort du duc de Guise. Facile à trouver. On la trouve, bon, La mort du duc de Guise. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Flaubert reprend tous les clichés, celui de Michelet, etc. Bon, c'est parfait. D'ailleurs, il y a eu énormément au XIXe siècle de textes sur la mort du duc de Guise. Ça avait frappé les esprits. Alors, une scène l'avait tout particulièrement marquée. Elle représentait celle qui représentait l'assassinat du duc de Guise. Et voilà ce qu'elle dit. Quand le duc de Guise est assassiné, par exemple, parce qu'à le faire comprendre à Orcantin, qu'est-ce que c'est qu'un moment parfait? Ben, c'est une image. Alors, quand le duc de Guise est assassiné, par exemple, les spectateurs manifestent leur stupeur et leur indignation en tendant tous les paumes en avant. Souvenez-vous, à l'opéra, il y en a aussi qui tendent leurs bras. Et en détournant la tête, c'est très beau. On dirait un cœur. Et ne crois pas qu'on ait oublié les détails plaisants ou anecdotiques. On voyait des pages qui tombaient par terre, des petits chiens qui s'enfuyaient, des bouffons assis sur les marches du trône. Mais tous ces détails étaient traités avec tant de grandeur et tant de maladresse qu'ils étaient en harmonie parfaite avec le reste de l'image. Je ne crois pas avoir rencontré de tableau qui ait une unité aussi rigoureuse. Eh bien, c'est venu de là. Alors, ah ben ça marche plus là. Il faut que je le remette. Je vais quand même vous montrer le duc de Guise. Il y en a tellement.
Si, ça va. Non, c'est sur ton ordinateur.
Ah bon.
Actionner, je ne sais plus.
Je suis actionné. Oui, ah oui, d'accord.
T'as déjà quelque chose comme ça.
D'accord. Ah, bon, je vais montrer Louis. Ça y est, enfin, c'est juste par, comme ça. Hein. Le duc de Guise, il y en a tellement. Les ducs de Guise. Je vais vous montrer des ducs de Guise assassinés selon les époques. Alors là, on remonte. Ça, c'est la Renaissance. Un autre. Il y a aussi la Renaissance. Et puis, on arrive au XVIIIe siècle. Et puis, on arrive au XIXe. Alors, au XIXe, des ducs de Guise. L'assassinat du duc de Guise a énormément excité... l'imagination des peintres. Et c'est pourquoi j'ai retenu ce tableau plutôt qu'un autre, parce qu'on voit apparaître le petit chien. Alors, un petit chien, évidemment. Alors, le petit chien, parce qu'on peut dire, enfin, c'est un détail ridicule, pourquoi le petit chien était là? Bon, alors d'abord, évidemment, ça fait très Henri III dans l'imaginaire du XIXe siècle. Hein. Ça fait vraiment, ça ajoute un petit côté. Vous avez vu que les assassinats du duc de Guise sont beaucoup plus sobres. Bon, est quasiment plus belliqueux à la Renaissance. Là, on a le petit chien. Mais ce petit chien, quand on se dirait c'est un détail superfétatoire, justement, c'est donc quelque chose d'accidentel. Eh bien non, ça concourt à l'harmonie d'ensemble, à la perfection même de la scène, alors même que ça devrait venir en détruire le caractère tragique, la grandeur, etc. Même chose, prenez le tableau de Courbet, un enterrement à Ornans. Les critiques ont beaucoup dénoncé la présence du chien. Disons que c'était quand même scandaleux, une scène religieuse, etc., que vient faire ce chien. Enlevez le chien, et vous verrez que quelque chose de la perfection de la scène va manquer. Bon, donc ça vient des images. Alors je n'ai pas trouvé, mais ça doit, parce que je ne peux pas vous le chercher, hein, ça doit être facile de trouver l'édition de Michelet illustrée dans laquelle Annie se plongeait quand elle était enfant. Alors, pour Annie, c'est venu donc de son édition illustrée de Michelet. Pour Emma et Bovary, c'est venu des illustrations de Paul et Virginie, des images d'équipes secs, des gravures qui figuraient dans les romans de Walter Scott. C'était derrière la balustrade, ça pour l'équipe sec, d'un balcon, un jeune homme en court manteau qui serrait dans ses bras une jeune fille en robe blanche portant une aumônière, etc., etc. La ressemblance entre Emma et Annie s'arrête là, car pour Annie, il ne s'agissait que de situations privilégiées, des situations qui avaient une qualité rare et précieuse, comme celle où l'on voit Virginie près de la maisonnette de bambou, hein, entourée du nègre Domingo, du chien fidèle et du bon petit frère courant pieds nus sur le sable pour lui apporter un nid d'oiseau. Et ce n'était pas encore des moments parfaits. Le moment parfait, lui, suppose un héroïsme de la volonté, tout entière tendue vers la transformation de l'exceptionnalité de la situation exceptionnelle en nécessité. Et plus qu'une question d'esthétique, c'est une affaire d'éthique, dans laquelle le sujet se trouve totalement engagé. Sans cet engagement, il n'y a pas vraiment de moment parfait pour Annie. Il fallait d'abord être plongé dans quelque chose d'exceptionnel et sentir qu'on y mettait de l'ordre. Si toutes ces conditions avaient été réalisées, le moment aurait été parfait. Elle aussi, elle entre dans l'image. Mais il y a une espèce de tension de la volonté, en quelque sorte, pour la fabriquer dans le moment parfait. Elle ne se contente pas des images qu'elle a vues. Elle ne veut pas entrer dans la scène de l'assassinat du duc de Guise, comme Emma voudrait entrer dans les scènes qu'elle voit dans les romans de Walter Scott ou de Paul et Virginie. Non, ça c'est un exemple. Annie n'a pas du tout envie de figurer, d'entrer dans un... Mais elle veut faire de la vie, faire des moments vécus, quelque chose qui ressemble à ce type d'image. Et Roquentin lui dit, en somme, c'est une œuvre d'art. Et elle dit, non, pas vraiment. Il fallait transformer les situations privilégiées en moments parfaits. C'était une question de morale. Je passe, parce que ça serait trop long, sur ce que je voulais vous dire, en reprenant évidemment les thèses de Ricoeur sur le récit, qui montrent comment dans un récit, effectivement, tous les éléments concourent à l'effet de nécessité de l'ensemble. Eh bien, c'est la même chose pour l'image. Mais ne soupçonnant rien de la fabrique du récit, ni de celle de l'image, Emma croit que la perfection de ces moments, qu'elle ne nomme pas parfaits, mais qui le sont pour elle, et c'est là la différence d'Annie, elle croit que c'est un attribut de la vie dans le vrai monde. Alors qu'Annie sait qu'il faut le fabriquer. Donc elle croit que c'est un attribut de la vie dans le vrai monde, dans ce monde auquel elle n'a pas accès. Elle croit que c'est un donné, que ce qu'elle voit, Walter Scott, qu'elle voit dans les romans de Bernardin de Saint-Pierre, elle croit que c'est un donné. Et elle attend, je dirais, elle en attend passivement la manifestation dans sa terne existence. Elle croit qu'il suffit de se répéter « j'ai un amant » et de se dire qu'elle entrait dans quelque chose de merveilleux où tout serait passion, extase, délire, pour se retrouver dans l'univers merveilleux des images. Elle ne sait pas que le moment parfait est un artefact du peintre, du graveur, etc. Et pour Annie, un artefact quelque chose qu'elle fabrique dans sa propre existence, hein, puisqu'elle veut que son existence ne soit faite que de moments parfaits successifs. Donc, elle ne se rend pas compte, c'est un artefact qui doit sa supériorité sur le désordre naturel, justement, à son artefacticité. Que c'est un paradis artificiel auquel on accède par l'art ou par la cesse de la volonté, comme veut le faire Annie. Emma n'a rien compris, évidemment, à ce devoir de transformation dont parle Annie, et qui implique de la part du sujet une tension constante pour maintenir, tenir le monde en ordre. Sauf peut-être tout à fait à la fin, dans la mise en scène de sa mort, qui eût été parfaite, si Flaubert ne la privait pas cruellement de cette perfection par la crudité des détails de l'agonie, comme vous le savez. Et par l'impéritie des médecins qui ergotent à son chevet. Au fond, ce qu'Emma aurait voulu, c'est que les événements de la vie empirique se signalent avec la même netteté que sur les images et atteignent un même degré d'intensité. Ce qui signifie que lorsque l'on vient de prendre un amant, cela fasse au relief sur le fond plat de l'existence. Et c'est à cette manière d'arriver des choses comme sur les images qu'Emma tient si fortement. Voilà, voilà.
Merci beaucoup pour cet exposé passionnant et je ne regrette vraiment pas que tu aies fait cet effort de venir aujourd'hui.
Je suis désolée, c'était un moment d'humeur, mais c'est pas grave.
C'est très bien. C'était vraiment très intéressant. Et alors, dans ce programme que nous avons sur Flaubert et les images, c'est tout à fait pertinent et passionnant parce que ça met en relief une dimension...
Ça m'est venu tout d'un coup. Tu vois, je me suis dit... Parce que je regardais ça, je me dis, mais au fond, c'est bête comme chou. Je me dis, mais au fond, si elle avait plus vu que lu... On dit toujours, elle a lu. Je me dis, mais si elle avait plus vu... Et tout d'un coup, ça m'est apparu comme une relative... Enfin, comme une évidence. Elle a vu. Je sais pas ce que vous en pensez quand on le dit, c'est bête comme chou, hein.
Ta définition de l'image comme idée reçue figurale,
oui.
C'est très bien, voilà, c'est très intéressant parce que constamment tu as traversé cette question de l'idée reçue et de la conformité.
Absolument.
Du réel à un modèle imaginaire, pas forcément préétabli, mais qu'on reconstruit et qui...
Absolument.
Alors moi j'aurais des choses à dire, notamment sur le cliché, mais je vais peut-être laisser tout de suite la parole à la salle.
Oui.
Voilà. Alors, écoute, j'ai vraiment trouvé ça passionnant. Je suis tout à fait d'accord avec cette importance des gravures chez Fauvel, où tu as trouvé le passage à la Ménagerie, où c'est le plus évident. Et puis, j'aime beaucoup aussi cette expression « arrêt sur image ». Ça m'a fait penser que Fauvel et sa correspondante, de temps en temps, racontent des choses, des scènes, des moments où des gens se trouvent ensemble, où quelque chose se produit qui était un peu inattendu, et puis qui a bouillé. Et il dit tout à coup « tableau ».
Voilà, tableau, c'est exactement ça, tableau.
Et donc, effectivement, il bloque, il cadre et il bloque un moment pour qu'on savoure, quelquefois même le grotesque, ou en tout cas la confiance
oui.
de ce moment. Mais alors, je voudrais juste ajouter l'autre versant, c'est-à-dire qu'au cinéma, nous le connaissons très bien. Alors, et sur l'image, c'est surtout intéressant parce que ça repart. Et si tu veux, il y a un aspect dans tout ton exposé est quand même important et dont tu n'as pas parlé, c'est le côté cinétique de ces gravures, de ces tableaux, de ces illustrations. Je pense aussi, j'ai un vague souvenir, j'arrive plus trop à le situer, ça devait être dans la galerie Michard, à propos des drames du 18e siècle, des drames du drame bourgeois inventé par les Greux, il y avait des illustrations, c'était Greuze.
Oui, oui, c'était Greuze.
Et alors, ces scènes de Greuze, de nouveau, c'est tableau, mais ils sont tous en train de faire quelque chose, etc. Et dans les gravures qu'aimait Emma, il y a le cavalier au galop, enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects cinétiques qui sont donc bloqués, mais qui vont repartir. Alors, si je peux encore
continuer oui, bien sûr.
Le développement, à partir de là, moi, je ne serais pas d'accord. Je ne pense pas que Fauvel se moque d'Emma comme quoi elle aurait eu de mauvaises lectures. Je crois qu'il y a des mauvaises lectures que Fauvel trouve très bonnes. Et quelquefois, il pousse les choses même très loin. Hein. Il a vraiment de très mauvaises lectures vers la fin, dans la troisième partie, qui sont peut-être... Enfin, ça pourrait être du sale, mais ça ne peut pas en être parce qu'on ne pouvait pas venir tout ça, évidemment. Enfin, c'est dans ce qu'il peut suggérer. Bon, et je ne pense pas non plus qu'on puisse vraiment dire que non seulement elle a lu des nouveaux livres, mais elle a aussi ressenti, expérimenté la puissance maléfique des images. Je ne pense pas que les images soient maléfiques exactement. Je porterai pas de jugement de valeur. Je ne suis pas sûre que le romancier porte des jugements de valeur vraiment sur ces personnages. Moi, je pense au contraire, et c'est tout ce que tu as dit était très intéressant, et dans ce sens, qu'elle a été éduquée par les images. C'est plutôt ça. Alors après, elle a conduit sa vie comme elle a pu, comme l'a Annie de Sartre, mais elle a été éduquée à chercher quelque chose dans la vie à travers les images. Mais justement, ces images qui sont des arrêts sur images, mais qui condensent du mouvement, et ce dont rêve Emma, c'est le mouvement, c'est la mobilité. Et tout ce qui va lui arriver d'intéressant dans la vie va être marqué par la mobilité, va être cinétique.
Non, mais je te donne entièrement raison. Alors d'abord, quand je parlais des mauvais livres, il est évident que je reprenais un cliché critique. Donc c'était pas du tout un jugement de valeur parce que on viendrait pas l'idée que ce soit des bon. Donc c'était l'idée, c'était un cliché critique. Donc je le laisse de côté. Pour venir au point beaucoup plus important de ce que tu fais remarquer. Effectivement, ces tableaux sont des tableaux qui arrêtent le mouvement. C'est pour ça que j'ai commencé par vous ennuyer avec la catégorie de description d'action. C'est une description d'action. Et d'ailleurs, ils ont les gestes comme ça, bon, même le tableau du duc de Guise, on voit, ils sont arrêtés dans leur action. Ce qui est d'ailleurs, en dehors de la peinture de paysage, de portrait ou de nature morte, c'est souvent le cas, en tout cas pour la peinture d'histoire, c'est ça. Alors, bien sûr qu'il y a un cinétisme, mais ce qui m'importait, c'était de montrer que comme il s'agit de tableaux, et donc il y a bien ce cavalier va quelque part, la barque aussi, celle qui est la jeune personne qui est en haut du donjon, ben on ne sait pas, est-ce qu'elle va se jeter, est-ce qu'elle supplie, enfin on n'en sait rien du tout, est-ce qu'elle regarde comme Anne Masserane. Moi ce qui m'intéressait, c'est que le roman ne dit rien de cela. C'est-à-dire que ce qui est perdu, c'est la dimension, c'est moins la question du mouvement que, je dirais, le sens du récit. Hein, l'histoire, l'intrigue, ce qui justement, quand on lit permet que tout cela ait une, nous, un sens. Et que là, ils sont pris dans des postures, bien sûr, dont on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants. Et que finalement, c'est, quand je parlais de pouvoir, enfin de maléfique, je dis qu'il y a cet effet de fascination de l'image est aussi lié à ça, et lié à cette privation d'intelligibilité, hein, puisque si vous regardez, moi j'en sais rien, si on regarde un tableau même de David, bon bah qui il fait quoi? Si on n'a pas le minimum de référence historique, bon.
Parce qu'il y a un sous-texte.
Oui, parce qu'il y a un sous-texte. Or là, bien sûr, et Flaubert le sait, et elle, comme elle a lu Paul et Virginie, elle a le sous-texte. Mais ce qui m'intéressait, c'est que dans sa manière d'en rendre compte, il le supprime pour ne plus laisser que cette forme de relative inintelligibilité, hein, puisqu'on n'a plus la trame narrative. Bon. Et donc, nous sommes véritablement dans la catégorie de la description d'action. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est la volonté d'avoir voulu supprimer le récit pour ne laisser que ça et pour la laisser s'absorber là-dedans. Et l'interrogation pour moi portait sur la raison pour laquelle on s'absorbe, elle en particulier ou d'autres, s'absorbe dans l'image. Dont l'efficace, je disais maléfique, il faudrait dire dont l'efficace est grande. Et sans doute, pour ça que j'y insistais, au fait que l'image va totaliser d'une certaine manière les choses, alors que dans le récit, on va les avoir successivement. Il faut le reconstruire, il faut se souvenir des éléments pour arriver à opérer mentalement, etc. Tandis que là, tout est donné dans une espèce de vision de scène qui n'est peut-être pas désirable en elle-même, sauf dans le cas de Bernardin de Saint-Pierre, parce que c'est vrai, il y a une désirabilité intrinsèque, mais dont la perfection elle-même est désirable. Parce que l'assassinat du duc de Guise, bon, je ne peux pas dire que ce soit une scène qui produise un effet de particulier désir. Or, pour Annie, c'est ça qui a été fondamental. Que ma vie soit faite de moments qui aient cette qualité supérieure. Qui ne soit fait que de moments qui aient cette qualité supérieure. Donc je suis d'accord. Mais ce qui m'intéressait, tu vois, c'est ça. C'est que pourquoi Flaubert n'a pas voulu dire ben, le cavalier va là, tu vois, non. Et il l'a supprimé volontairement, bien sûr. Comme l'opéra de Lucie de la Mère Morte, je vous assure que si vous ne l'avez jamais lu le livret, on peut rien comprendre à ce qui se passe. Oui, ne le connaît pas. Lui, il comprend rien puisqu'il ne connaît pas le sous-texte. Mais je me suis dit, bien sûr qu'elle connaît le sous-texte. Mais tout d'un coup, en regardant les choses, je me suis dit, elle connaît le sous-texte, mais elle connaît encore plus les images. Hein? La manière dont c'est écrit montre que ce que ça rappelle en elle, ce sont plus ces gravures de Walter Scott que finalement le roman de Lucie de la Mère Morte.
En même temps, ce qu'elle se rappelle, c'est toute une série d'images hallucinées.
Bien sûr, hallucinées, exactement.
De la vie qu'elle a vécue et de celle qu'elle a voulu dire.
Absolument, absolument. Rodolphe n'est pas la garde.
Moi, je voudrais revenir sur la question du cliché. J'ai trouvé très intéressant tout ce que tu disais sur de l'image cliché. Il y a aussi une dimension verbale dans les... Je pense à la présentation de Walter Scott dans Bouvard et Pécuchet ou dans Madame Bovary, mais c'est plus sensible dans Bouvard et Pécuchet, c'est-à-dire qu'il y a, en dehors des représentations d'action, il y a des représentations de qualité. Par exemple, les messieurs doux comme des lions.
Oui, oui.
Doux comme un lion. D'ailleurs, si on réfléchit, c'est contre... ça va contre l'idée reçue du lion.
Oui, hein, c'est un oxymore.
Mais d'où comme, ce sont des clichés verbaux. Alors, on peut se demander s'il n'y a pas aussi, je veux dire, si en dehors de l'image, il n'y a pas aussi cette
bien représentation. Sûr.
Mais ce qui est intéressant, c'est la coïncidence de l'image typée et de la formule verbale.
Oui, oui.
Hein, c'est cette...
Et puis ce qui m'intéressait, tu as raison, mais ce qui m'intéressait, à part les fruits rouges, dans ces, lorsque ces romans sont évoqués, que ce soit l'équipe sec, que ce soit les quelques romans dont on ne donne pas les titres que lui fournissait la lingère, que ce soit les romans de Walter Scott, que ce soit ceux donc, de Bernardin de Saint-Pierre, il n'y a aucune notation de couleur. Aucune. C'est aussi qui accentue l'effet que ce sont des gravures. Il n'y a pas l'herbe était verte, etc. Non, il y a éventuellement de la lumière, un reflet sur le lac, que la gravure peut reproduire, et puis sinon c'est du noir et blanc. Il n'y a que du noir et blanc.
À la différence du vitrail.
Du vitrail de Saint-Julien. Non, ça, si je continuais, j'avais prévu. Absolument. J'avais prévu, de parler évidemment du vitrail. Surtout que je me suis rendu compte en fouillant qu'il y avait eu dans l'artiste le compte rendu à peu près à l'époque de Saint-Julien l'Hospitalier, un long compte rendu d'une exposition de vitraux. Et en même temps, il y avait aussi la volonté de développer l'art du vitrail, l'artisanat du vitrail, y compris pour les intérieurs. Enfin, ça, j'ai eu ça dans l'artiste, un article qui rendait compte de ça, puis après tout, je m'en fous. Bon, je l'ai laissé. Mais je l'ai. Je l'ai.
Et c'est basé sur une gravure de la croix sur le vitrail.
Oui.
Précisément.
Oui, oui. Oui, c'est en noir et blanc.
Et
l'art
évolue, donc la couleur.
Oui, c'est en noir et blanc.
Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que, en donnant à lire un arrêt sur image, dans le chapitre 6 d'Abovary, Flaubert finalement mime ce que la psychologie va appeler un traumatisme? L'analogie entre le traumatisme de l'arrêt sur l'image, l'image qui revient, et qu'on ne peut pas dépasser.
Oui, c'est vrai. D'une certaine manière, c'est vrai. Parce que, effectivement, et ça Proust le montrera bien dans la réflexion, enfin, réflexion romanesque sur la mémoire, où il y a trois types de mémoire. Et il y a la mémoire arrêt sur image. Et cette mémoire arrêt sur image, qui est indépassable, c'est le moment, par exemple, du coucher où sa mère ne vient pas l'embrasser. Et ça se répète à l'identique. C'est-à-dire que ça ne peut pas s'intégrer, hein, ça ne peut pas s'intégrer dans un récit. Ou alors, il faut se coucher sur le divan du psychanalyste, puisque le rôle, justement, du psychanalyste, c'est de transformer cet arrêt sur image en un récit qui permet, justement, de dépasser, comme tu le disais pour le cinéma, l'arrêt sur image. Et alors évidemment, ça prend peut-être du temps, j'en sais rien, mais c'est une des fonctions de l'analyse, c'est d'intégrer cet arrêt sur image dans un récit qui permet justement de le dépasser. Alors effectivement, il y a de ça, il y a quelque chose d'indépassable, mais comme ça lui est pas arrivé à elle, mais c'est quelque chose qui la fascine, et c'est une fascination qui reste figée. Mais en même temps, je pensais, mais il faudrait l'argumenter, et puis surtout, arriver à le penser de manière extrêmement précise, à certains de ces textes aussi, presque contemporains, cette idée d'entrer dans l'image, hein, entrer dans l'image, entrer dans une image, pas entrer dans une histoire, ça arrive, on s'imagine qu'on est Superman, ou je ne sais trop quoi, ou la Belle au bois dormant, bon, mais entrer dans l'image, être dans l'image. Et je me disais que quand elle se met les pieds dans l'abreuvoir à vaches, elle entre dans cette image. Elle entre dans cette image. Elle n'entre pas dans le roman de Bernardin de Saint-Pierre. Elle n'est pas Virginie, amoureux, enfin, qui découvre les premiers émois amoureux avec Paul, etc. Bon. Elle est dans l'image. C'est une image. Ce qui demande à être poursuivi, parce que là, il y a une réflexion importante à faire, je dirais, d'ordre philosophique. Là, mais j'ai déjà des éléments pour commencer à comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Quant à Valéry, c'est extraordinaire, parce qu'il est comme Bouvard et Pécuchet. Hein? Ça ressemble à Titus. Ben oui, d'accord. Pardon, Pierre-Marc.
Non, mais merci beaucoup. C'est, comme toujours, quand tu fais un exposé, il y a ce que tu dis, et puis il y a ce à quoi ce que tu dis renvoie, fait penser.
Bon, c'est parce que, tu sais, ça me vient. Parce ça, que, comme je ne suis pas très érudite, il y a des petites choses qui me viennent. Je me dis, bah tiens, tout d'un coup, je me dis, bah tiens, comme Madame Michon, tu vois, je me dis, ah bah tiens, si. Voilà, c'est ah
et
si.
Déjà, c'est ça. C'est de faire penser à d'autres choses. Alors, il y a beaucoup à dire. Beaucoup sur la question du monde possible, selon dont l'image est la référence. Hein.
Juste un point, attends, Pierre-Marc, je rends la parole tout de suite, mais pour pas qu'il y ait de malentendu, pour qu'on comprenne ce que je veux dire par possible, parce que là, c'est un raccourci philosophique qui est trop rapide. Si vous regardez un tableau avec des arbres, eh bien, ces arbres-là, ce n'est pas la racine de marronnier qui est son pourquoi, devant laquelle médite Roquentin. Dans le tableau, tu n'aurais jamais cette expérience de la absolue contingence, ou la radicale contingence du monde, tu vois. Bon, c'est pour qu'on comprenne bien la différence. Sur le tableau, jamais vous n'allez méditer comme Roquentin. Fin de la parenthèse.
Non, je crois que c'est tout à fait passionnant. Je pense que, n'oublions pas que ce séminaire se situe dans un projet de recherche à 3 ans sur l'image, et je crois que ton exposé indique des voies tout à fait formidables, notamment pour l'encensement des gravures, des images non pas référentielles, mais avec lesquelles jouent l'écriture
fondatrice. Tu sais qu'on pourrait peut-être, si on a les 160 euros, parce que c'est 160 euros, on pourrait lui acheter sur eBay. Ça vaudrait le coup, hein, d'avoir toutes les gravures, non?
Oui, oui.
On a des moyens. Moi, j'étais radin, là.
Moi, je voulais. J'aime bien aussi ce que. Cette question sur le traumatisme, je pense que c'est
oui.
Parce que dans ce que tu décrivais, si on se réfère biographiquement à l'expérience commerciale, je pense quand même que la très lourde insistance des gravures, des images, aussi bien dans les textes que dans la correspondance, ça revient. Nous renvoie à une expérience probablement enfin à la fois traumatique et régulatrice pour Flaubert, qui est celle de qu'est-ce que c'est que le sens d'un texte au moment où on ne savait pas lire.
Oui, oui.
Et qu'est-ce que c'est que ce rapport
d'où le vitrail,
d'où le vitrail. À l'illustration hein, du Don Quichotte, par exemple, mm-hmm. Qui n'est pas en couleur, qu'on l'a colorisé soi-même, etc. Dans l'appréhension d'un sens narratif, notamment, à la fois par la lecture des copains, enfin des adultes qui vont faire l'interprétation du texte, à ce moment de bascule entre un rapport à la langue qui est simplement oral et un mystère de l'inscription de cet oral, dont on sait qu'il a été un mystère douloureux. Que la lettre a été quelque chose pour lui comme un instrument de torture
avant. Oui, c'est vrai.
Avant. Or, l'image est une sorte de bouée, de sauvetage dans cette espèce de naufrage-là, initial. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose
absolument.
D'assez important à cette échelle. Et puis, alors, par rapport à ce que tu disais sur l'image et la privation d'intelligibilité, oui, il y a cette. Sûrement très très important. Donc ça, ce serait la faire par défaut, mais il y a aussi être par excès. C'est-à-dire, au fond, ces images, elles sont aussi inscrites dans un travail d'une très haute sophistication, dans
un
travail du texte.
Bien sûr.
Traite, à un certain moment, ça on le sait depuis qu'on travaille sur les brouillons, qui traite le texte lui-même comme une image.
Bien sûr.
C'est-à-dire qui étale l'ensemble du roman. Pour pouvoir dire, je vais lui faire rater l'acte 3 de Lucie de la Mermoire, et je vais faire dire au texte à ce moment-là, mais alors, nous ratons le moment de la mort et de la folie, pour que la troisième partie non vue soit celle du roman, au moment où Emma, avalant le poison, a une mort à la bouche.
Absolument.
Est en train de vivre la folie et et la mort, que la première partie avait laissé en suspens. Donc là, on est bien, il y en a 36 des exemples comme ça, mais on est bien dans la situation où l'image se reconvertit en stratégie d'écriture dont le repérage n'est possible qu'à l'échelle de la mémoire du texte tout entier, c'est-à-dire de la capacité du texte à faire image dans notre mémoire pour devenir une sorte de récit que nous nous sommes appropriés. Mais comment on se l'approprie?
Mais tu as entièrement raison. Par exemple, c'est pour ça que je disais à la fin, je suggérais que son seul moment parfait, finalement, serait celui de son agonie, où elle est. C'est la mort de Lucie de la Mère Mort. Sauf que Flaubert, par une espèce de perversité qui lui est propre, va choisir l'arsenic, qui fait que ce moment parfait va devenir répugnant. Bon, donc là, il y a une espèce de chose. Bon, ça c'est typiquement flaubertien. Mais à la limite, c'était là. Elle était Lucie de la Mère Mort. Enfin, elle entrait dans l'image. Hein? Elle entrait dans cette image sur la scène de l'opéra. Et puis. Oui, c'est ce que je dis, c'est les paroles. Puis je pensais aussi, le film, il y avait Woody Allen, la rose pourpre du Caire, on entre de l'autre côté. Il y a des textes comme ça, entrés dans l'image. Oui, c'est Lewis Carroll. À l'époque, oui, c'est, au 19e, il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Enfin, les érudits doivent en connaître davantage. J'en connais quelques-uns. Oui, c'est très important.
Le retour, parce qu'il y a quelque chose à voir aussi. Peut-être c'est pas celle qui pensait, mais ça vient des relations avec l'idée d'obsession.
Oui. C'est pour ça que c'est indépassable.
Un scénario exactement avec le même détail,
oui.
qui nous renvoie aussi à l'expérience première de la littérature, le grand commencement, redit.
Je pense que c'est très important. Ce que vous disiez est très important, parce que je pense que, imaginons. Évidemment, c'est ridicule, parce qu'on ne va pas imaginer ce qu'un personnage de roman peut imaginer comme si c'était un personnage. Bon. Mais supposons, comme il y a le petit-fils d'un de mes copains qui a 3 ans, il est dans une école anglaise, alors il fait pretend. Donc pretend. Puis de temps en temps, il fait correction. Bon, alors pretend. Bon, pretend. Il a 3 ans, il est à l'école anglaise. Je trouve ça merveilleux, parce que tout d'un coup, ils apprennent la différence entre la réalité et pretend.
Alice dit à sa nurse, supposons que je suis une hyène et vous êtes un os.
Voilà.
Let's pretend.
Pretend. Alors, pretend. Donc, c'est comme des 36 guillemets, le pretend. Alors, imaginons que lorsqu'elle songe à la scène ou à la petite maisonnette, etc., à mon avis, ce qu'elle voit, c'est toujours la même image. Je ne pense pas qu'elle puisse imaginer qu'après, dans la maisonnette, on fait ci, on fait ça, etc. C'est l'image. Ou le bain, c'est l'image. Qui revient, de cette une sorte de fixité.
Ça va dans le sens de cette vie qu'elle n'arrive pas à
vivre. Non, bien sûr. Et d'autant plus que, etc. Mais elle pourrait imaginer, par exemple, qu'elle prend le bateau avec Paul, sans Paul. Et elle pourrait imaginer tout ça. Non, elle n'imagine pas qu'elle entre véritablement dans l'histoire. À aucun moment, il nous est dit qu'elle quitte ce pays, qu'elle va, etc. Et donc, elle pourrait, mais je ne sais pas, quand on est enfant, parfois, on entre dans une histoire, puis on se raconte qu'on est le personnage. Bon. Là, non, c'est l'image. À chaque fois, dans laquelle elle veut se mettre. Ce qui est troublant.
Oui, c'est une magnifique introduction à notre projet constitué de base de données intégrale.
Non, c'est une base pour. Mais sérieusement, non, je plaisantais à peine en disant que ça serait peut-être intéressant parce que, très honnêtement, c'est 160 euros peut-être le centre pour les avoir. Ça vaudrait le coup d'avoir ce recueil des gravures.
Pardon, il y a une recherche qui n'a pas été faite qui va être peut-être de toutes les images naufragées. Il y a un moment très grande dépense en fait, d'énergie scripturale chez Flaubert, où il y a des accumulations, pour dire une chose, il va choisir des accumulations de clichés, d'images.
C'est intéressant.
Par exemple, dans l'éducation sentimentale, il y a l'équivalent de ce que tu décrivais quand il s'agit de dire ce que les images auxquelles se réfère l'imaginaire de Frédéric quand il voit Marie, Arnoux, pour la première fois. Alors il y a presque une page entière
d'images.
De femmes à la peau brune, machin.
D'Andalouse. Mais tu vois, dans le recueil dont je parlais, ça va un peu aussi dans votre sens. Parce que moi, ce qui m'a étonné quand j'ai découvert l'existence de ce volume, d'abord j'ai découvert que ça existait, mais ça, c'est pas une grande découverte. Mais quand j'ai pu avoir au moins la préface, etc., c'est-à-dire les intentions, je trouve ça quand même très étonnant. L'éditeur qui vous dit, bon, moi je fais un recueil d'images, d'illustrations de Walter Scott, prises dans toutes sortes d'artistes, hein, parce qu'il a pris dans différents volumes. Et puis, vous avez des images types, ce qui prouve bien que le récit, à la limite, n'est plus ce qui est véritablement en question. Vous avez, je donne à ceux qui voudront éditer Walter Scott, un recueil d'images types, et puis vous choisissez, vous les mettez là, vous les mettez là. Donc, tu vois, indépendamment de ce qui est effectivement ou spécifiquement raconté dans chacun des romans. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire que là, l'image n'a plus qu'une espèce d'existence purement autonome. Hein? Elle fonctionne toute seule. Et, bon, donc c'est pour... Hein? Et il dit, des amateurs, au fond, moi je veux me faire un petit trip Walter Scott, ben, je regarde simplement le recueil, qui n'est pas une bande dessinée, puisque justement ça ne bouge pas, ça n'avance pas. J'ai Walter Scott. C'est curieux comme
Oui, en référence, il y a une ancienne longue tradition de cela dans la communication des contenus la géologie sacrée par les images.
Oui, bien sûr. Non, mais si tu veux, par rapport à Flaubert, c'est ce qui m'intéressait, c'était par rapport justement à la question de Flaubert, le fait qu'il ne résume aucun résume rien.
Il faudrait s'interroger aussi, enfin ce que je disais tout à l'heure sur le cliché verbal, sur le parce que
oui, ce que tu disais.
Pierre disait que le livre fait image pour le lecteur. C'est quand même par la médiation du langage et éventuellement des clichés verbaux qui peuvent renvoyer à des clichés picturaux ou des gravures, mais aussi à des mots.
Mais j'ai pensé à ce que tu disais, doux comme des lions. En fait, je suis même pas sûre que ça passe par le texte, parce que on peut très bien imaginer que ce soit des situations telles que Hercule au pied d'Omphale, tu vois. C'est-à-dire que tu vois le chevalier, le pro-chevalier sur un sofa au pied de sa dame. Là, tu dis doux comme un lion. Tout d'un coup, le lion devient doux.
Mais c'est encore plus compliqué que ça. Oui. Doux comme un lion, c'est la contraction du rayon de miel dans le lion mort. Une image qui revient sans arrêt.
Oui, puis ça, c'est dans l'Antiquité.
Voilà,
c'est... L'Antiquité classique. Il ne faut jamais oublier qu'ils ont une bonne formation classique.
Mais non, mais ce que je voulais simplement souligner, c'est que doux comme des lions, c'est du langage.
Oui, oui.
Et que c'est pas. Même si ça renvoie à des images, ça peut aussi renvoyer à des mots.
Je suis d'accord. Alors,
c'est le médiateur entre l'imaginaire en amont et ce que ça suscite dans l'esprit des lecteurs.
Mais il faut bien plus.
Oui. Ah oui.
Votre commentaire, question, non ? Alors il nous reste à tout remercier.
Merci à vous.
Pour ce très riche exposé, très stimulant. Hein.